Alors, Hell of a Ride, avant de parler plus en détail du nouvel opus, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours artistique bah jusqu'à maintenant?
Du groupe en général, c'est ça?
Ouais, et puis ton parcours à toi, qui t'a fait ta propre aventure, pourquoi le choix de ton instrument, pourquoi le rock, enfin voilà.
Ok. Alors, pour commencer par le début, hein, pour moi, je suis venu au rock en fait parce que mes parents étaient un peu dans le milieu motard, enfin étaient dans le milieu motard. En région Île-de-France et Paris, et quand j'étais gamin, je traînais vachement sur les circuits Carole où il y avait des festivals à l'époque, avec pas mal de groupes de rock. J'ai bercé un peu dedans, sans que mes parents soient vraiment à fond dedans au niveau rock, mais c'était déjà ça. Et moi, je voyais pas mal de groupes de mon père ou de ceux que je voyais en fait sur scène. Moi, j'adorais ça. Enfin, j'adorais voir un batteur, j'adorais voir un guitariste. Et moi, je me suis penché là-dedans autour des 11-12 ans, en me disant, voilà, j'ai envie de faire d'un instrument. Je voulais faire de la batterie, ce qui était un peu compliqué en appartement. Donc, je me suis tourné vers la guitare. Et j'ai commencé à écouter pas mal de groupes, les classiques comme Black Sabbath, Led Zepp, Motorhead et La Clique. Et je me suis penché aussi vers le punk rock. J'allais pas mal en punk rock à l'époque, qui est pas, on va dire, facile pour canaliser une espèce d'énergie. Fil en aiguille, je suis passé vers des formations autour des 15 ans. Je commençais dans une formation qui était plutôt dans le côté grunge, très grunge à l'époque. Au fil en aiguille, travailler la guitare un peu plus technique, à écouter d'autres influences, aller plus vers le blues. Et ce genre de style, de découvrir aussi le métal, avec tout ce qui était Iron Maiden, enfin Iron Maiden que j'écoutais déjà, mais à jouer en fait, d'aller vers des classiques comme Metallica, tous ces groupes-là qui sont des standards, et après d'aller dans le métal un peu plus dur comme Sepultura, ce qu'on avait comme à l'école. Des groupes un peu plus mélange Urban Dance Squad qui mélangeait le hip-hop et le métal que j'écoutais aussi. J'ai découvert le hip-hop un peu vers mes 15 ans aussi. Et de fil en aiguille, j'ai monté différents projets qui étaient dans le style mélangé rock stoner à d'autres influences. Et ça m'a amené en fait en 2006 à croiser les chemins de Jay Généré qui font partie des Love Ride, qui étaient dans différentes formations. Et donc on a traîné pas mal ensemble, à partager un local, à faire quelques concerts en commun. Et en 2011, nos formations, nos projets musicaux étaient en train de s'arrêter en fait, simplement. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et vu qu'on avait des atomes crochus, on s'est dit bah peut-être essayer de tenter l'aventure, mais avec la difficulté en fait de la période et la fin de nos projets chacun, on était un peu dans le down. Et c'est suite à un soir, on picolait ensemble, on est tombé sur un mec qui nous a donné un énorme coup de pouce, parce qu'en nous racontant sa vie, en fait, on s'est rendu compte qu'un échec ou une fin d'une situation n'était pas une fatalité, et que le genre de mec qui arrive à se relever de ce qu'il s'est pris dans la tronche dans sa vie, comme le mec qu'on venait de croiser, si lui y arrivait, c'était quand même une grosse motivation en fait pour nous de se dire, allez, on se relance dans un projet, on fait un projet commun, on fait la somme de nos expériences passées et on va de l'avant. Et c'était comme ça qu'en fait l'esprit en fait Hell of a Ride est venu. De par cette envie commune en fait d'aller de l'avant et de déterminer à aller vers un objectif qui trace en fait. C'était vraiment de partir sur tous ces codes-là, toutes ces cultures en fait qu'on avait en commun et qui nous réunissaient, de nous retrouver en fait. Voilà.
Toujours sur l'aspect artistique, actuellement tu as certains guitaristes qui restent des références pour toi un peu des musiciens totems, tu vois.
Sur le totem, après, moi c'est vraiment dans la compo et dans la certaine recherche rythmique. Moi je suis vraiment dans ce qui est assez rythmique. Moi j'aime beaucoup ce qui se fait, tout ce qui est assez percussif, les styles comme Nothing More, où basse, batterie, guitare est vraiment dans cet esprit-là où ça rebondit, ça peut être incisif. Fever Free 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 aussi qui ont vraiment l'espèce d'énergie. Moi, je suis vraiment dans l'énergie. Donc, tout ce qui va être tout ce qui va ramener une énergie et comme ça, une condensation d'énergie qui peut exploser, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche depuis que je suis gamin, en fait. C'est
D'accord.
hyper actif. Et après, en technique, moi, je suis vraiment sur des classiques. Jimmy Page, quoi, c'est vraiment quelqu'un qui, bah, pareil, hein, est vraiment dans six ailes de ses guitares, avoir un côté vachement laid-back, jouer là-dessus. Moi, je suis pas dans la technique shredder, donc bah, moi, c'est pas quelque chose qui m'a attiré, mais autant que c'est dans l'énergie et dans la rythmique, hein, de pouvoir. Espèce de groove comme on peut avoir chez Tom Morello, j'aime vraiment.
D'accord,
Voilà,
moi
moi
ouais, c'est
c'est vraiment ce type de jeu en fait que j'apprécie.
petite question plus comme ça, curiosité passage. Tu joues sur quoi? Les Paul, Fender, autre?
Alors, pendant longtemps, on a joué sur Schecter, parce qu'ils ont des guitares qui sont vraiment calibrées en fait pour l'accordage qu'on a. Parce qu'on a un drop de si, donc elles ont vraiment exactement le diapason qu'il faut et le type de micro. Là récemment, Noré, lui, il est passé sur les guitares Aviator, qui sont un luthier d'Europe de l'Est, qui correspond vraiment à ce que lui recherchait, qui lui a fait du sur-mesure. Donc il a vraiment eu, et au niveau du son, et au niveau des finitions et du confort de jeu, correspond à lui. Moi, je suis revenu en fait chez Gibson, parce que j'ai eu quelques Gibson par le passé. Je suis revenu sur une Explorer 76, mais d'époque, qui a une gouache de fou qui est hyper agréable à jouer.
D'accord. C'était pour savoir. Donc on s'était pas. Enfin, j'avais parlé à tes camarades fin 2015 pour la sortie de Bête Noire. On est 5 ans plus tard. Finalement, comment tu résumerais, ou est-ce que pendant ces 5 ans, il y a un événement particulier qui pour toi résumerait un peu toute cette période?
Alors la promo Bête Noire, il s'est passé quoi? Il s'est passé pas mal de choses, surtout en scène, au niveau scénique. Je pense que Bête Noire, à l'époque, on était on venait de terminer de le composer, de le sortir, et on était encore dans le mood en fait de l'album, qui est quand même introspectif. Il y a un côté rageux là-dedans, une espèce de rage, d'énergie contenue et une certaine nostalgie. Depuis la scène, les festivals qu'on a fait et tous les concerts qu'on a pu faire, ça nous a vachement en fait ouvert en fait sur le partage avec le public au niveau de l'énergie, des émotions et de ce qu'on peut de ce qu'on peut échanger en fait dans ces moments-là. Ça nous a vraiment donner un autre point de vue et donner une autre vision en fait de comment approcher notre musique, enfin, en tout cas dans ce qu'on veut écrire pour le jouer en fait sur scène. Et ça a beaucoup orienté en fait l'écriture du deuxième album.
D'accord. De mémoire, si je me souviens bien avoir lu sur votre site internet, il y a eu un download 2017?
Il y a eu en 2017, il y a eu un download, qui fait partie de ces expériences en fait de scène qui font que tu n'arrives pas forcément face à des gens qui te connaissent, donc, contrairement aux concerts qu'on peut faire sur des plateaux où les gens viennent parce qu'ils nous connaissent. Là, c'est vraiment quand on est sur des festivals comme ça, comme le Download. On avait fait en 2016 aussi la guerre du son à Londres sur une affiche assez éclectique avec Agenda Foundation, Nao, des groupes qui sont un peu plus dub, reggae ou world. De se retrouver face à un public comme ça, qui n'est pas forcément dans la culture metal rock, ben en fait on a vu les réactions et que ça réagissait bien et que ça participait vraiment, et du coup c'est un échange d'énergie. Ben on s'est dit voilà, c'est comme le download, et comme le download après avec le Montreux aussi, entre Confluence, où c'était un festival assez éclectique. Parce qu'il y avait eu Trust, il y avait eu Claudio Capeo, Matt Pokora, donc c'est un public qui n'est pas du tout forcément gagné par défaut. Ça a permis de voir en fait qu'il y avait des morceaux en fait où les gens étaient vraiment réceptifs et on a voulu se concentrer là-dessus en fait.
D'accord. Quand on monte sur des grandes scènes, alors bon, comme disais, t'as mentionné deux trois événements, c'est ou l'un Download qui est un gros événement avec des grosses têtes d'affiche, donc on sait qu'en face de soi on va avoir du monde. C'est un stress particulier, c'est une angoisse particulière la veille, le matin, enfin ou ça se vit plutôt bien quand même.
Alors c'est vraiment, je pense, juste avant de monter. Ça peut, alors c'est pas un stress à cet ordre-là, mais on sent en fait, on sent que c'est à ce moment-là où effectivement on est, il y a un, enfin, c'est vraiment vis-à-vis du public, en se disant comment est-ce qu'on va être accueilli.
Donc c'est les premières
Le
minutes sur
petit,
scène finalement qui est en fait rassurant.
juste avant, exactement, c'est vraiment le petit quart d'heure avant.
D'accord.
Où tu as fini de t'échauffer, où tu es encore en train de t'échauffer, et tu sens que même si tu fais tout ce qu'il faut, les étirements, vraiment tout ce qui va réussir te mettre en condition en fait pour envoyer dès le premier morceau, tu sais que là, il y a une petite part de stress qui commence à monter et qui disparaît en fait, qui disparaît dès les premières notes en fait, et à la fin du premier morceau, c'est un vrai soulagement.
D'accord. Finalement, au moment où, quand vous avez commencé à bosser sur le nouvel album et donc Nine of Cups, et quelle était l'idée directrice ou ce que vous aviez envie de faire pour donner suite à Bête Noire?
Alors au niveau c'était de garder cette espèce d'énergie en fait, d'énergie communicative qu'on avait justement sur certains morceaux de Bête Noire. On s'est dit, voilà, là il y a une piste à suivre, des morceaux comme Red Light Mississippi, Aphrodisiac Cadillac, et une certaine continuité aussi dans les constructions des morceaux, d'essayer de retrouver des ballades comme on avait fait avec Rain of Fuel, ou Everything's Missing qui était sur Bête Noire, de se dire, on veut des morceaux énergiques, on veut des morceaux un peu plus calmes, éthérés, avoir des ballades ou des mid-tempo, mais on veut apporter une couleur un peu moins sombre, on veut quelque chose d'un peu plus ouvert. Et de passer de l'un à l'autre, enfin, ça s'est fait en fait naturellement grâce au concert et à l'expérience avec le public. Mais on a voulu garder tout ça et de garder le côté fonceur, c'est-à-dire, voilà, il y a une idée en tête, on y va à fond. Ça reste le mantra, en fait, le fil conducteur d'Hell of a Ride, c'est réalise ce que tu as envie de réaliser, ne te freine pas, tu es le seul à pouvoir le faire.
D'accord. Vous avez commencé à travailler sur cet album vers quelle période à peu près?
On a fait 2017 où on a commencé à prendre du recul par rapport à Bête Noire en se disant, voilà, ça faisait 2 ans qu'on défendait sur scène. On l'a sorti en 2015, Bête Noire, mais c'est sur la fin de l'année. Donc, il y a eu tout 2016 et une petite partie de 2017, en fait, où, justement, après le download de Montreux, donc c'est après la période estivale 2017, on s'est dit, alors, va falloir peut-être profiter de tout ça, en fait, de ces expériences, cette envie, et de rebondir là-dessus, c'est-à-dire la dynamique qui s'était créée à ce moment-là. On s'est dit, allez, on va partir sur des morceaux. On a commencé à cadrer en fait le concept de Nine of Cups. Et le processus s'est fait entre 2018 et 2019, au moment où, je dirais à peu près septembre, on l'a fini, mois d'avril, quelque chose comme ça.
Et quel est finalement le processus interne de création du groupe? Comment ça se passe? Comment un titre naît au sein de Hell of a Ride?
Depuis Nine of Cups, justement, on a trouvé une façon de procéder qui nous correspond plus, quoi. On lance pas mal d'idées, de gimmicks, comme ça, même juste à la voix, en se disant, voilà, on trouve une tournure, une rythmique, une phrase. À partir de là, on va essayer d'adapter ça vraie rythmique, batterie, de poser les guitares, les riffs qui nous viennent, et au fur et à mesure, en fait, tout va se construire, c'est-à-dire on va apporter l'énergie, le groove, et ramener après les teintes d'émotion mélodique, et ainsi de suite. Pour Line of Cup, c'est ce qu'on a fait, on est arrivé vraiment avec une quarantaine d'idées de différentes gimmicks. On a un peu plus ou moins poussé selon les idées. Après, on a fait un choix avec le producteur pour arriver à 20 idées à 70-80%. Et de là, c'est nous, on avait une bonne trame de départ, et puis on a commencé à travailler avec le producteur pour justement aller plus loin dans les sonorités, dans le travail des riffs, et dans les arrangements, les mélodies voix, etc.
D'accord. Mais tout ça, c'est vous vous retrouvez physiquement ça jam ou c'est des échanges de fichiers?
Alors, c'est des échanges de fichiers sur Nine of Cups
D'accord.
pour la première partie, et pour la partie, on va dire, une fois qu'on va rentrer, vous êtes sur les 20 morceaux qu'on a sélectionnés pour les produire. Là, c'est ensemble. Et ça reste toujours autour d'un ordinateur, mais on est vachement dans l'échange. C'est-à-dire, on enregistre les parties, et pendant que l'un enregistre, l'autre va dire, attends, j'ai une idée de rythmique, et va commencer le morceau modifie, en fait. Dans la session, par exemple, on faisait un titre par jour, et ça fait que 8h du matin, on démarre avec l'idée, de base, et à 23h, le morceau est fini, et il a évolué complètement via l'échange qu'il y a eu au sein de la journée.
D'accord. Est-ce que tu te souviens lequel des 11 titres vous auriez finalisé en premier?
Le premier, pense que celui qui a été le plus vite, parce que au niveau de la maquette, ça a été très rapide, Stand Down. Parce que dans la phase où on a travaillé les ébauches, au niveau des idées rythmiques et arrangements, ça a été peut-être l'un des plus rapides à faire. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est venu le plus rapidement. Et Never Give Up aussi, qui était déjà une bonne trame. Était déjà une bonne trame. Mais ça fait partie des deux morceaux qui ont été les plus rapides à mettre à coucher, en fait.
D'accord. Donc tu mentionnais précédemment une vingtaine de titres bossés plus en avant, puis finalement finalisés à 11. C'est-à-dire que les 9 idées qui n'ont pas vu le jour et qui n'ont pas été finalisées, c'est poubelle ou c'est on garde pour potentiellement d'autres choses dans le futur?
Alors on garde toujours les chutes, en fait. Il y a pas mal de choses qu'on a fait, même de Bête Noire, en fait, on réécoute. Dans Bête Noire, il y avait sur les 11 titres, il y en avait dire 20, 20, enfin, une vingtaine, en fait. Et à chaque fois qu'on repart sur la compo, autant une oreille, parce qu'un riff, en fait, c'est pas parce qu'il est exploité ou pas exploité, enfin, pas parce qu'il est pas exploité qu'il est acheté. Il peut toujours te redonner de l'idée derrière, une façon de l'appréhender, qui fait que bah, un truc qui est peut-être pas passé sur un album va revenir. Et des fois, c'est aussi une question de choix, de se dire, ah, ce morceau, il est cool, mais sur l'album, il se passe pas forcément, ou l'énergie ou ce qu'il en dégage, bah, pas forcément dans la même direction, ou va pas forcément coller au concept. Ça arrive, en fait, de reprendre des choses qui sont un peu plus anciennes et de les retravailler derrière.
D'accord. Par rapport à Bête Noire, on remarque que finalement, vous avez dû apprécier l'expérience d'enregistrement, producteur, etc. Parce que vous avez renouvelé à peu près l'équipe, les conditions avec le même producteur dans des lieux assez similaires. C'est important pour vous d'avoir cette continuité?
En fait, oui, exactement, parce que ce qu'on avait commencé avec Bête Noire, avec Charles Callaghan Massabo, le producteur, en fait, on voulait le pousser plus loin avec. Lors de la session d'enregistrement de Bête Noire, on avait ramené déjà les compos, et si tu veux, elles étaient à peu près à 90% bouclées. Il y a eu un travail d'arrangement de sa part, mais pas beaucoup de réécriture, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment dans l'échange sur ce moment-là. Et les idées, en fait, qui avaient vraiment évolué, en fait, à cette période-là sur Bête Noire, je pense à des titres comme At the Drive-In, qui avaient vraiment pris une autre tournure, ou même Rain of Fuel, qui était déjà qui avait dépassé cette trame-là, mais qui a réussi à être travaillé pour avoir ce rendu, et qui nous vraiment plaisait tel qu'il a été produit. On s'est dit, voilà, plutôt que d'arriver avec des choses trop finies, on va essayer d'avoir un échange plus en amont déjà avec lui. C'est-à-dire que plutôt que ça se fasse le jour J, en fait, on a fait l'échange, en fait, comme tu disais, l'échange de fichiers avec lui, pour dire, voilà, qu'est-ce que tu vois rythmiquement, est-ce que tu vois d'autres choses, comment est-ce qu'on peut faire évoluer la mélodie. Et c'est un truc qu'on a bossé en amont avant la session d'enregistrement. C'est pour ça que c'était une volonté, en fait, de bosser avec lui, parce qu'il apporte vraiment quelque chose dans la créativité et surtout c'est quelqu'un d'intéressant en fait, qui est toujours ouvert et c'est fun de bosser avec lui en fait.
D'accord. Dans les documents promotionnels qui accompagnent l'album qu'on a reçu, il est mentionné à un moment que vous avez donc co-écrit Nine of Cups avec Mathieu, Robbie et Jared. Comment ça se passe ce type de collaboration?
C'est un. Alors, c'est des. Enfin, la collaboration, elle se passe en deux temps, c'est-à-dire, il y a une première approche, une fois qu'on avait les 20 idées, les 20 idées déblayées, on a commencé à se dire, OK, quel titre, enfin, qui va apporter quoi, en fait, sur quel titre? De se dire, alors, on sait que Jared, il a un côté plus pop, électro-rock, limite indus ou new wave. Alors que Boots, lui, c'est complètement le côté 90, Beastie Boys et en même temps ultra pop. Et c'est des choses, on s'est dit, voilà, au niveau des énergies, comment est-ce qu'on canalise ça? Et on s'est dit, ok, on va orienter les morceaux en fonction de nos influences à nous, mais aussi pour laisser la porte, pour leur laisser la porte ouverte pour qu'ils puissent ramener quelque chose. Que ça soit dans les lignes mélodiques, donc t'as des arrangements de chœur et pas mal de choses comme ça, ça permet derrière à changer, à ce que eux, leur collaboration s'arrête pas juste à écrire, mais vraiment à ramener en fait au sein de la composition une mélodie et des choses qui se font. Et le temps 2, c'est une fois qu'on a préparé en fait le terrain et qu'on a enregistré on dirait, toutes les pistes instrumentales. C'était d'aller aux États-Unis avec, enfin, de retrouver Charles dans son studio aux États-Unis avec là où il travaille parce qu'il connaît en fait ces artistes-là. On les connaissait aussi par le travail qu'ils ont eu en commun. Et ça a été de travailler avec eux sur les thématiques qui ont été développées en amont de notre côté quand on a fait la conception de l'album et que ça colle à ce qu'on voulait raconter, à l'histoire développe avec Jej au niveau du chant à toutes les lignes mélodiques.
D'accord. Finalement, comment ça, vous êtes deux guitaristes dans le groupe. Comment ça se passe qui prend quoi? Alors, comme tu le disais, toi, t'es plutôt axé rythmique, ton camarade plutôt en lead. Mais ça se fait naturellement ou c'est selon les idées des uns ou des autres ou celui qui se sentira le plus à l'aise avec sur telle ou telle partie. Comment ça se passe?
C'est un échange en fait. Là, ça part de. Ça part d'un riff ou on va dire d'une grille, par d'une grille d'accord pour poser par exemple l'aspect émotion, tout ce qu'on pourrait développer au niveau mélodie sur cette grille-là. Et après, ça va être amené par un riff, alors que ce soit Noré ou moi, ça amène toujours une trame de base, de départ. Après, on rebondit l'un sur l'idée de l'autre. Jusqu'au moment où, moi, je sais que je vais dire, attention, là, pense à augmenter la note parce que ça va ouvrir le truc et qu'on a, on dire, on a un échange qui se fait, c'est un exemple typique, mais c'est un échange qui se fait, en fait, lors de la composition, justement, dans la phase où on s'échange les idées. Et après, une fois que la rythmique est instaurée, en général, moi, je travaille vachement avec des drums, des programmations, je programme vachement les drums en amont, pour pouvoir justement poser l'aspect rythmique. Lui, il y a un travail de mélodie, de phrase, où il va apporter justement une seconde guitare, plus dans son clair, plus légère. C'est ce qu'il fait en général. C'est comme ça que ça se produit. C'est comme ça qu'on procède en général.
Et donc finalement, quand vous préparez, vous répétez en vue de concerts à venir, c'est assez naturel et limpide, finalement, qui prend quoi et qui joue quoi sur scène.
Quand on est en phase d'enregistrement, une fois que tout est composé, enfin une fois que les riffs, les parties sont composées, et chacun les a dans les pattes en fait, et du coup chacun enregistre sa piste. Quand on arrive, quand on doit préparer un set live, c'est bien plus simple parce que on n'est pas à se dire ah, tu jouais quoi au fait, donc c'est déjà plus naturel, oui.
D'accord. Finalement, t'es du genre rapide en studio. Enfin, en général, tu fais combien de takes sur un même titre ou?
Oh, ça dépend, mais ça dépend en fait de la façon dont on compose le morceau, comment le morceau naît, et des morceaux qui, on va dire, où les riffs, le morceau ne change pas en soi, parce que bah, au niveau de la prod, le riff disait, bah, le prod disait, bah, le riff est cool, on le garde comme ça. Donc, en général, en deux takes, voire deux takes, voire trois pour un dub, ça va rapidement. Une fois que tu les, enfin, moi, une fois que je les ai, c'est pas un souci. Après, il y a des morceaux où bah, ça se fait un peu plus en mode tiens, là, modifie l'idée, modifie le riff, modifie la rythmique. Bah, ça peut reprendre au fur et à mesure en petite reprise, mais voilà, une fois que c'est dans les mains, ça va vite. C'est surtout de faire des prises, de garder en fait l'énergie et l'attaque. Précisément, en fait, sur certains passages, tu vois, et surtout là, on a fait certains morceaux, certains titres où on a décortiqué un peu plus les riffs au niveau de la prise de l'enregistrement. On a essayé d'autres techniques de méthode d'enregistrement. Là où il y avait besoin d'énergie, d'avoir un truc naturel, elles ont été faites en one shot partie par partie. Et là où il y avait besoin d'avoir vraiment un truc, une attaque précise et de faire sonner la note exactement comme il fallait sans que ça bouge trop, parce qu'avec ce type d'accordage, bah, t'as un jeu qui bouge vachement quand t'as selon ton attaque. Là, il fallait enregistrer quasiment note par note pour le faire sonner correctement. Même s'il était bien joué, tu pouvais toujours avoir des moments où, au niveau de la production, ça bougeait, ça faussait, surtout quand tu utilises vachement de samples et de synthés. Eux, il n'y a pas de fausses notes, ils bougent pas parce que c'est totalement numérique. Mais sur un instrument, sur une guitare, bah, il y a toujours le danger de, bah, c'est normal, ça bouge. C'est pour ça qu'il y a certains moments où, au niveau des prises, on a utilisé une technique d'enregistrement comme ça.
D'accord. En support de l'album, vous avez enregistré deux grands clips. Il y a eu Echoes et puis Never Give Up, Never Surrender. Alors Echoes, les deux sont très scénarisés, mais de mémoire, Never Give Up, Never Surrender, vous apparaissez pas mal, alors que Echoes, je crois que vous apparaissez pas, ou très peu.
Exactement.
En général, les clips vidéo, où donc il y a une partie où vous intervenez parce que vous jouez vous jouez le morceau avec entrecoupé des éléments scénaristiques, c'est un exercice qui est apprécié, ou c'est plus une obliga une obli enfin comment dirais-je c'est nécessaire pour le business, mais bon, c'est pas l'exercice le plus drôle du monde, quoi.
On l'avait alors sur le premier clip qu'on avait fait sur Fast, on apparaissait déjà, alors, et dans la partie fiction, alors, et dans la partie où on joue en live, je pense que c'est un peu important pour un groupe aussi de se montrer, qu'on voit un peu les têtes de qui joue quoi. C'est toujours, moi j'aime bien voir un peu qui joue sur quoi, déjà, ce genre de qui a quoi comme instrument, quelle marque, quel modèle. C'est toujours important de s'approprier l'image du groupe, de dire voilà à quoi il ressemble. Mais sur Echoes, la volonté c'était vraiment de laisser part à l'atmosphère et au scénario, à ce qui se répète, vraiment voir cette espèce d'immersion liée au scénario. Après, pour Never Give Up, c'était surtout un exercice. On s'est dit voilà, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas vu jouer, en fait, parce que à part les lives, on s'est dit voilà, ça serait bien aussi de se mettre un petit peu en avant et de au moins de jouer. Et c'était en rapport avec le scénario où les interventions, écho à ce que le personnage traverse, pour l'encourager, voilà, sans dévoiler le scénario, pour lui dire allez, fonce, vas-y, n'aie pas peur, affronte ce que tu as affronté. Et
D'accord.
c'est une éclate à faire parce qu'on les a faites les prises live, en fait, on les a faites dans un studio, au studio Alidia. Un studio, c'est une boîte, en fait, qui fait la location de matériel, son et light. On a pu mettre en place, en fait, un jeu de lumière qui a été fait par Thibaut, le batteur. Qui fait que derrière, bah, c'est une ambiance qu'en fait qu'on voulait aussi ramener en live. Ça nous a permis, en fait, de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire bah, qu'on se soit montré, qu'on fasse partie du rythme de la vidéo et l'implication par rapport au personnage, et aussi bah, d'avoir un aperçu de ce que ça va donner maintenant en live sur les prochains sets.
D'accord. Donc dernière question pour terminer, parce qu'on va arriver au temps imparti. Qu'est-ce qui est prévu dans les temps qui viennent, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans un contexte un peu bizarre?
est prévu. Bah, là, nous, on en, bah, dans ce contexte-là, nous, on a profité pour recomposer de nouvelles choses, de lancer le nouveau clip Never Give Up, Never Surrender, et surtout de se pencher sur la rentrée. Alors, septembre, ça peut paraître encore flou, parce que même je pense que tous les acteurs, en fait,
Ouais, des spectacles,
théâtre,
personne ne sait si c'est possible ou pas, ouais.
pour l'instant, ils savent pas trop, mais nous, on se positionne plus en disant, voilà, on va défendre cet album, en fait, sur scène, qu'on soit quand on pourra, réouvrir les salles. On a démarché certaines salles, mais c'est plus pour la rentrée 2021. En tout cas, parce que se croise les doigts au niveau des différents intervenants, milieu. Mais on est en train de travailler justement tout ce qui est scéno, set, et nouvelles chansons, nouveaux titres, et attaquer la suite.
D'accord, donc on peut penser que le prochain album mettra pas 5 ans à sortir.
Non.
Bon.
Surtout, on n'a pas ce besoin, parce qu'on sera pas, autant sur la durée entre les deux albums, il y a quand même 2 ans après Bête Noire, enfin 2 ans, 2015 à 2017, on a défendu Bête Noire. Et c'est surtout, on avait besoin derrière de prendre du recul sur justement ce qu'on voulait communiquer. Ça nous a permis de le faire maintenant où je pense qu'on a une dynamique là-dedans et une méthode différente de l'époque. Ça permet d'aller plus vite. Et surtout, je pense que c'est important aujourd'hui avec justement tous les nouveaux vecteurs de communication, nouveaux streaming, plateformes digitales, etc. Je pense qu'il faut continuer à faire des choses, des albums, mais il faut aussi pas hésiter à sortir et à produire des titres régulièrement.
Ok, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous répondre et puis
Voilà,
tous
merci
nos vœux
beaucoup.
pour la suite et on vous suit sur vos sites internet et réseaux sociaux.
Ben, merci beaucoup à toi, Christophe.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.